Réplique aux sources du malheur français avec Denis Oliven et Pierre Vermeren. Comme le rappelle Denis Oliven dans son dernier livre, Le délicieux malheur français, la France figure au rang des pays les mieux lotis de la planète. Niveau de vie par habitant, limitation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, croissance continue du pouvoir d'achat, y compris des plus modestes, faible nombre des ménages pauvres, etc. Nous nous tenons sur les toutes premières marches du podium du bien-être. Nos dépenses sociales sont parmi les plus élevées du monde, de même que nos dépenses pour les équipements et activités publiques. L'école, l'hôpital, la police. Nous taxons les riches, imposons le capital, fiscalisons les entreprises plus que partout ailleurs. Fin de citation. Et pourtant, malgré ces bons chiffres, rien ne va plus. Les enfants gâtés, selon les données statistiques, font plus que bouder. Ils sont à cran et se déchirent. La tension dans notre pays est palpable. Métropole, quartier dit populaire, France périphérique, il y a plusieurs France en France. Au grand étonnement du reste du monde, les manifestations de plus en plus nombreuses sont aussi de plus en plus violentes. Il est des lieux où le métier de professeur est devenu un sport de combat. Les pompiers et les policiers crient leur détresse. Les échanges d'anathèmes tendent à remplacer, dans la conversation civique, les échanges d'arguments. Bref, le climat se dégrade. La question que je voudrais donc poser à Denis Oliven et à Pierre Vermeren, qui publie « La France qui déclasse », est simple et traduit mon désarroi. Qu'est-ce qui se passe, Denis Oliven ?
En effet, on a le sentiment que nous sommes devenus une gigantesque association de détestation mutuelle et je ne crois pas qu'il faille... chercher des raisons psychologiques. C'est pas que les Français soient dépressifs, ronchons, de mauvaise humeur, réfractaires. Je pense qu'il y a de vrais motifs. C'est pas non plus que nous boudions notre bonheur, que nous soyons imbéciles, que nous n'ayons pas conscience des privilèges qui sont les nôtres. Je crois qu'il y a un vrai sujet, des vrais motifs objectifs, matériels et spirituels, mais je vais me concentrer un instant sur la dimension matérielle de ce malheur français qui est fondé en raison. L'hypothèse que j'essaie de développer, c'est que la cause de notre malheur, c'est pour ça que je dis que c'est le délicieux malheur français, c'est que c'est le modèle que nous avons construit en 1945 et que nous n'avons cessé d'enrichir depuis, auquel nous sommes tant attachés et qui est en même temps l'une des raisons principales de notre souffrance. Non pas le niveau de dépenses sociales, non pas la générosité de ce modèle, mais la façon... Les dysfonctionnements, la malfaçon dans sa construction qui, au lieu de produire de l'unité dans le pays, produit de la division. On aura sans doute l'occasion de développer cela dans le reste de l'émission, mais simplement deux éléments pour fixer les termes du débat. Ce modèle, il a deux énormes inconvénients, facteurs de division. Le premier, c'est que nous ne sommes pas simplement le pays des 300 fromages, nous sommes aussi le pays des 44 régimes d'assurance retraite, des 300 systèmes d'assurance maladie, des 500 niches fiscales, en sorte que deux Français qui ont à peu près les mêmes destins, les mêmes revenus, les mêmes carrières, ne payent pas les mêmes impôts, ne payent pas les mêmes cotisations sociales, n'ont pas les mêmes remboursements d'assurance maladie, n'ont pas les mêmes pensions de retraite, et donc ce pays est divisé. Le Danemark, qui a le même niveau de dépenses sociales que nous, n'a qu'un seul régime de retraite, qu'un seul régime d'assurance maladie, très peu de niches fiscales, et donc les mêmes dépenses unifient la population au lieu de les diviser. Premier effet négatif de ce modèle. Et deuxième effet négatif, dont on a vu de manière éclatante la traduction à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, ce modèle écrase les classes moyennes. Au cours des dernières années, des dernières décennies, les riches, les ménages riches, ont bénéficié de la libéralisation, de l'évolution des marchés financiers, de l'évolution des marchés immobiliers. Les revenus de leur patrimoine se sont améliorés. Les pauvres, et c'est très heureux, ont bénéficié de la croissance continue de notre protection sociale. Et au milieu se situe une vingtaine de millions de Français, la classe moyenne, qui paye des impôts, qui reçoit peu de prestations, dont le patrimoine n'est pas très important et dont les revenus ont décroché. On avait ce modèle prétendait consacrer les classes moyennes et il les a massacrées. C'est donc bien ça le sujet que nous n'arrivons pas à traiter, que nous n'arrivons pas à identifier et qui est une des causes de cette dissonance qui n'existe dans aucun autre pays comparable au nôtre entre notre richesse objective et notre malheur ressenti.
Oui, mais Denis Oliven, il faut choisir entre les deux interprétations. Vous semblez dire que la France est émiettée par tous ces systèmes d'assurance maladie, de retraite et de niche fiscale. Et en fait, vous dites aussi qu'elle est divisée en trois. Les riches que la mondialisation rend heureux, les pauvres protégés par le système social et la classe moyenne. C'est plutôt ça, quand même, la réalité du malheur français. C'était cette division en trois, dont la crise des Gilets jaunes est l'un des symptômes.
Malheureusement, les deux effets sont à mes yeux ou à mon sens cumulatifs. Ils ne sont pas antinomiques, ils sont cumulatifs. Nous avons inventé quelque chose qu'on aurait pu breveter mondialement, l'égalité injuste. Nous parvenons en effet à avoir des dispositifs sociaux très puissants, et en même temps, ces dispositifs, d'une part, sont répartis de manière catégorielle entre les individus de la nation, c'est le premier sujet, et ça nous distingue des autres systèmes sociaux du monde, et d'autre part, s'ajoute à ça, en effet, une scission très forte entre trois Frances qui désormais ne se parlent plus ou ont du mal à vivre ensemble, la France d'en haut, la France d'en bas et la France d'à côté, celle des classes moyennes qui est la principale laissée pour compte globale du système.
Pierre Vermeeren, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ?
Oui, globalement, mais je pense que pour revenir à la classe aisée dont vous parlez dans votre livre, j'aurais tendance à la réduire parce que selon elle, un professeur du secondaire à Paris serait considéré comme riche. Il est évident que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a une dimension qui manque, c'est beaucoup la question de l'immobilier qui fait partie de la redistribution des cartes et des problèmes. Mais moi, j'avais envie de répondre à votre question initiale au moins sur trois plans parce qu'elle est quand même très très vaste et on pourrait y passer l'émission. Qu'est-ce qui se passe ? Je dirais que pour moi, pour cibler, d'abord je commencerai par le changement de modèle économique de la France. La France a été très longtemps un pays de producteurs, de petits producteurs notamment, ou de producteurs moyens dans l'industrie, dans l'agriculture, un pays de travailleurs indépendants, dans la boutique notamment. Et aujourd'hui, on a eu en quelques décennies, on a le résultat de quelques décennies d'évolution qui ont complètement reconfiguré le paysage. Et on peut dire qu'il y a eu un phénomène de désindustrialisation massive qui n'est pas total, mais par rapport à l'Allemagne, il y a vraiment un changement de structure profond. Et aujourd'hui, la plus grande partie des Français qui travaillent donc sont des salariés, et des salariés pour beaucoup qui sont modestes, ou qui ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail. Ça concerne assez peu la classe moyenne, sauf justement dans les grandes villes dont elles ont été expulsées. Et ça concerne aussi, bien sûr, les classes populaires très largement, puisque le revenu de leur travail ne peut pas les faire vivre. Et là, il y a une atteinte à la dignité donc des gens qui travaillent. La question du chômage étant bien sûr une conséquence aussi de ces évolutions, puisque on a un niveau de chômage qu'on ose à peine évoquer, hein, plus de 3 millions de chômeurs et plus de 3 millions de personnes en activité incomplète. Ça veut dire, c'est un niveau de chômage si historiquement qui renvoie à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors évidemment, il n'y avait pas d'indemnisation du chômage, mais il faut quand même se rendre compte ce que c'est dans un pays comme la France que 6 millions de chômeurs à temps plein ou à temps partiel. C'est considérable, surtout si l'on ajoute 3 millions de jeunes qui sont absolument, je le cite de l'OCDE, qui sont absolument en dehors de toute activité ou de toute étude. Deuxième point, rapidement, il y a une question à mon avis aussi de croyance, parce que je crois que pour tenir une nation, il faut quand même des croyances, il faut une espérance ou des espérances. Et je me rappelle à l'époque du président Sarkozy, les préfets avaient fait un travail d'enquête sur le territoire et une de leurs conclusions était que les Français ne croyaient plus à rien. Et je crois que le changement de modèle économique, la mondialisation, les transformations sociologiques très profondes qu'ont traversé notre société aboutissent à ce phénomène d'une désintégration des croyances collectives. On dit souvent ça a été la fin des grandes espérances, qu'elles soient religieuses ou civiles ou laïques. Mais là, il y a quelque chose qui renvoie à ce qui m'apparaissait un peu étrange il y a quelques décennies quand j'entendais mes amis de Sciences Po parler d'anomie. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce terme? Il me semble qu'on est en pleine anomie. Cette anomie, donc, de l'ordre de la croyance ou décroyance collective, on va la retrouver dans des grandes institutions qui souffrent, comme l'école. Mais il me semble aussi qu'on peut, et c'est mon troisième point, la voir dans l'organisation ou la réorganisation de l'espace, des territoires, des paysages, parce que quand on voit ce qui est devenu... Alors, je dirais, il y a deux questions. Il y a d'abord toute une partie de la France qui est littéralement abandonnée. Des régions rurales profondes, des petites villes, des départements et des régions entières qui sont comme, si j'allais dire, bombardées pour certaines parties du territoire, qui sont littéralement abandonnées. Hein. La désindustrialisation a laissé derrière elle un paysage en ruine. C'est un peu comme quand la mer se recule, on est à marée basse dans de très nombreuses régions. Ça, c'est... Et puis, il y a une reconstruction qui s'est opérée notamment dans la périphérie des villes, extrêmement sauvage, à l'initiative dont on ne sait pas très bien qui, parce qu'il n'y a pas eu de... Pour une fois, les pouvoirs publics ont abandonné la gestion de l'économie du territoire et sa reconstruction. Et cet aménagement anarchique a donné vraiment beaucoup de problèmes parce que, enfin, quand les gens disent on ne se reconnaît pas en France, on pense tout de suite à l'immigration, mais en réalité, il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux en se disant mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce no man's land un peu étrange, qui est un mélange entre la Norvège des années 50 et des petits aspects soviétiques et des petits aspects de banlieue américaine avec des fast-food, des garages. Enfin, c'est quand même, il y a là quelque chose qui me paraît problématique.
Denis Oliven.
J'entends très bien ce que vous dites, et évidemment la mondialisation, l'accomplissement de l'individualisme contemporain, la désindustrialisation, tous ces éléments-là ont évidemment modelé, modifié notre façon de vivre ensemble. Mais ce qui me paraît, enfin en tout cas moi ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui nous est propre ? Parce que finalement, tous les pays occidentaux, tous les pays européens ont été frappés par ces mêmes mots, pas tout à fait de la même manière. Vous avez raison, l'Allemagne s'est moins industrialisée que nous, mais d'autres pays se sont davantage industrialisés. Donc la tendance naturelle des économies modernes à la tertiarisation a frappé toutes les économies occidentales. Qu'est-ce qui explique que nous réagissions plus mal que d'autres? Au fond, c'est ça qui est le sujet qu'on doit essayer de comprendre. Alors, bien sûr, il y a un aspect que je ne traite pas, ou en tout cas fugacement, mais qui mériterait d'être interrogé, ce que vous appelez l'univers des croyances, c'est-à-dire nous avions un certain modèle français, républicain, une certaine forme d'identité, que ces phénomènes ont sans doute plus affecté que d'autres pays qui étaient plus naturellement prêts à une forme de libéralisme culturel. Je laisse ça de côté.
Mais on en parlera.
Mais du point de vue économique et social, l'intensité de la mondialisation est plutôt moins grand chez nous que chez d'autres. Le tournant néolibéral, entre guillemets, des économies est plutôt moins fort chez nous que chez d'autres. On est encore un pays dans lequel il y a 50% de nos richesses qui sont publiques. On a un code des impôts que personne ne nous envie, un code du travail qui est sans doute le plus complexe de tous les pays. Donc on est resté moins libéraux que d'autres et pourtant nous sommes plus frappé que d'autres. Et mon hypothèse, ça ne sous-estime pas l'ensemble des éléments que vous avez cités, mais comme ils sont communs à tous les pays, ils ne nous distinguent pas. Moi, il me semble que ce qui nous distingue, c'est que nous avons fait un choix de modèle de redistribution, et que c'est ce choix-là que nous n'osons jamais interroger, parce que si on dit le modèle social, il faut repenser le modèle social, aussitôt on entend il faut réduire les acquis. Or, c'est cette architecture globale qui nous dispose moins bien que d'autres dans la situation actuelle et qui nous rend plus malheureux. Et tant qu'on ne pose pas cette question-là, on n'est pas capable de trouver des solutions.
Alors, cette architecture globale, vous pointez un problème dont vous avez déjà parlé, Denis Oliven, ce que vous appelez la préférence française pour le chômage. Pierre Vermeren disait il y a un chômage terrible aujourd'hui en France. Et vous dites que ça tient aussi au modèle français. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus ?
En fait, ce que je dis, c'est que on pourrait bien sûr, comme vous l'avez fait, se dire au fond, qu'est-ce qui nous distingue des autres pays ? Un taux de chômage plus élevé. C'est vrai, on a un taux de chômage plus élevé. Donc, on pourrait dire ça, c'est la raison du malheur français, n'allons pas chercher plus loin. Mais quand on regarde de près ce qu'est ce chômage français en vérité, ça n'est pas, contrairement à ce que l'on croit, un chômage qui touche tout le monde. En fait, c'est un chômage qui est extrêmement concentré sur les travailleurs non qualifiés, non diplômés. Il y a 5 ou 6 millions de Français non diplômés, non qualifiés, et c'est chez eux que massivement se trouve le chômage durable. Autrement dit, quand on dit on est tous susceptibles d'être chômeurs, c'est pas vrai. Il y a une catégorie parmi nous de Français qui concentre le chômage, et d'une manière implicite, dans les choix économiques que nous avons faits depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, nous avons préféré indemniser massivement ces chômeurs. On a le système d'indemnisation le plus généreux du monde, à la fois en taux de remplacement, en durée d'un chômage, bref. On préfère indemniser ces chômeurs, mais ne pas toucher à un certain nombre des éléments de notre modèle social qui leur permettraient éventuellement de trouver du travail, parce que nous, la majorité, nous ne sommes pas affectés par ce chômage. Donc, je ne crois pas que le chômage, c'est ça que j'appelle la préférence française pour le chômage, c'est nous acceptons le chômage d'une certaine catégorie de nos concitoyens, bien indemnisés pour n'avoir pas à faire des efforts de transformation du modèle dont bénéficie la majorité. Et du même coup, si cette analyse est juste, si le chômage est l'effet d'une préférence implicite que nous avons exprimée à travers nos choix politiques au fur et à mesure des dernières années, par exemple la réduction du temps de travail, pour prendre cet exemple, eh bien alors ça ne peut pas être la cause du malheur français. La cause du malheur français, c'est autre chose. Ce qui nous rend malheureux, ça n'est pas ça. C'est la manière dont nous redistribuons ces richesses.
Pierre Vermeeren.
Oui, je suis d'accord avec votre analyse, mais je pense qu'il faut y greffer des facteurs culturels, et notamment ce que j'ai appelé le déclassement, ou en tout cas la dépréciation du travail. Il y a des pans entiers de travailleurs en France, ou d'ailleurs de chômeurs, qui sont sortis de l'emploi, dont les activités ont été dévalorisées. Je pense que la désindustrialisation qui a supprimé 2,5 millions à 3 millions d'emplois dans ces dernières décennies, la quasi-disparition de l'emploi agricole. Alors aujourd'hui, ça fait un peu rire, on se dit il y avait 7 millions d'agriculteurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et dans 10 ans ou 20 ans, il y en aura 200 000. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez à peu près un travailleur sur deux ou sur trois en France qui a été transféré de secteur de ce fait. Mais en réalité, ça entraîne un effet de déqualification, à la fois parce que des métiers entiers ont disparu, y compris d'ailleurs dans les services. Les métiers de la restauration ont été incroyablement déqualifiés, puisqu'aujourd'hui on peut travailler dans l'hôtellerie-restauration après une petite formation courte. Je visitais encore, pour même dans le domaine culturel, je visitais récemment ce week-end un château dans le sud de la France, et la guide nous expliquait qu'elle avait été formée très rapidement, et effectivement elle nous faisait visiter ce très beau château avec une non-qualification totale. Donc il y a une déqualification d'ensemble. On nous explique d'ailleurs que à l'avenir, on n'aura plus besoin de métier, on n'a plus besoin de qualification, puisqu'on va devoir changer 4 ou 5 fois de métier dans sa vie, voire plus, et que de surcroît, dans le bâtiment et dans certains secteurs, on n'a même pas besoin de parler français, puisque de toute manière, on doit finalement fixer des boulons ou quelque chose comme ça, on n'a même plus besoin de comprendre. Donc, le travail ouvrier, le travail manuel, du travail dans beaucoup de secteurs ne suppose plus de formation, et à partir de là, le respect des patrons, des employeurs, même le respect qu'on a vis-à-vis de son propre travail. On disait, il y a tout un tas de proverbes de l'ancienne France qui disent l'amour du travail bien fait, etc. Cela a disparu, et ça a des conséquences culturelles très lourdes, parce qu'au fond, si moi je suis plâtrier, j'ai intérêt à me mettre faussement en congé maladie pendant 2 semaines, 1 mois ou 3 mois après avoir travaillé, faire des heures sup, travailler au noir, me mettre au chômage. Ça, on en connaît tous. C'est un état d'esprit qui traduit un profond dysfonctionnement économique, mais à mon avis davantage culturel.
Alors dysfonctionnement aussi parce que il y a un nombre considérable de chômeurs, peut-être aussi parce que nous n'avons pas su changer de modèle et que nombre d'employeurs refusent d'embaucher car ils savent qu'ils ont une grande difficulté à licencier en cas de difficulté pour eux-mêmes. Mais surtout, il y a des offres d'emploi, notamment dans la restauration, mais aussi dans l'artisanat, qui ne trouvent pas preneur. Alors comment expliquer ce paradoxe ?
Et c'est même l'une des caractéristiques de ces derniers temps. qui s'explique notamment par toute une série de règles qui dissuadent, qui ont dissuadé le travail. Parce que les offres d'emploi, il y a deux types d'emplois qui restent sans être pourvus. Les emplois très faiblement qualifiés, mais parce que les conditions qui sont faites aux travailleurs sont peu attirantes. Et puis des emplois qui mériteraient une meilleure qualification et pour lesquels les formations sont inadaptées. Mais les deux caractéristiques françaises, on l'a dit, un taux qui aurait pu expliquer le malheur français, c'est un taux de chômage trop élevé, mais dont je pense qu'il est l'effet d'une préférence implicite. L'autre caractéristique française, c'est qu'on a un revenu par habitant, un PIB, par une richesse par habitant moins forte. Et qu'est-ce qui explique cette richesse, enfin, ou en tout cas qui croît moins vite que dans des pays comparables? Et prenons un exemple, dans les années 70, on avait à peu près la même richesse par habitant que les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes 30% en dessous. Et qu'est-ce qui explique cet écart? La moitié de cet écart s'explique par le fait que nous travaillons moins que les autres pays. Nous avons une durée du travail annuelle et une durée du travail sur la vie active, parce que nous avons moins d'alternance à l'entrée et des retraites plus précoces, qui est inférieure à ceux des autres pays. Et donc, quand nous demandons à la fois une protection sociale élevée, des revenus plus importants et en même temps de travailler moins, il y a une contradiction dans les termes. Donc on pourrait dire, l'une des raisons du malheur français, c'est cette richesse par habitant inférieure. Mais je ne crois pas. Je crois que là encore, nous avons exprimé un choix implicite qui est de travailler moins. Simplement, comme ce choix est implicite, c'est comme le chômage, comme ces choix ne sont pas clairs, comme les éléments de notre modèle ne sont pas explicites, on ne peut pas éventuellement changer ces choix parce qu'on ne comprend pas nécessairement quel est le système dans lequel nous sommes.
Pierre Vermarine.
Oui, il y a un problème de prix quand même. Quand on sait qu'un professeur du secondaire en fin de carrière en France gagne moins qu'un débutant instituteur en Allemagne, ça dit bien que dans la hiérarchie des salaires et des revenus, il y a un gros problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui appartenir à la classe moyenne, vous ne pouvez pas être policier, instituteur, professeur, etc., plombier, artisan et habiter dans Paris, dans les grandes métropoles. Vous êtes obligé d'habiter très loin. Parce que vous n'avez pas le droit aux logements sociaux et vous êtes incapable de répondre au coût du logement qui, je le rappelle, est trois fois plus élevé qu'en Allemagne. Donc une des raisons c'est pas la pénurie de logements, parce qu'à mon avis cette crise est un peu entretenue, mais il y a un réel problème avec la dissociation des lieux d'emploi et des lieux d'habitat possible. C'est d'ailleurs c'est ce qui a causé directement la crise des Gilets jaunes dans de très nombreuses grandes villes de province, entre parenthèses. Donc, si vous avez un travail mal rémunéré et de surcroît peu considéré, on a une des explications, parce qu'il manque des cuisiniers, mais il manque des profs aussi.
Il manque des profs aussi. Alors, je voudrais maintenant aborder un thème où il me semble que vous n'êtes pas d'accord. Denis Oliven, vous parlez à un moment donné du problème du petit commerce et des grandes surfaces. Vous vous référez à la loi Royer qui protège le petit commerce contre l'ouverture des grandes surfaces. Et vous dites, ces mesures restrictives ont freiné la destruction d'emplois dans le petit commerce, mais de manière beaucoup plus importante, elles ont réduit la création d'emplois dans les grandes surfaces. Ça aurait été une bonne manière de résoudre le problème du chômage, mais du moins de le réduire. Or, Pierre Vermeren, vous dites-vous que les supermarchés ont ruiné le commerce de détail, et que ça a contribué à la formation et au développement de ce que vous appelez la France moche, à la suite, je crois, d'un dossier de Télérama. Et vous dites, si les gilets jaunes ne protestent pas contre la dégradation physique de leur environnement, ni contre la décomposition de leur univers culturel et esthétique hérité, on ne prend pas un grand risque en présumant que cela participe du climat morose dans lequel baigne la France, et vous mettez en cause les maires. Il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. La carte blanche a été donnée aux maires qui ont déclassifié les terres agricoles en terrains à bâtir, signé à tour de bras des milliers de permis de construire pour multiplier hangars métalliques, pavillons ainsi que zones commerciales en dépit de toute considération esthétique ou architecturale. Donc les maires ont déshabillé les centres-villes, vidé les commerces, en les vidant de leurs commerces et de leurs activités. Et vous dites que ça gagne aussi les villages. Vous pensez que dans la tristesse de la France actuelle, l'enlaidissement, en fait, joue un rôle très important, Pierre Vermeulen?
Moi, je le pense profondément, mais ça n'est pas évidemment à l'évidence un sujet de débat public puisque ça n'est jamais abordé. Vous mentionnez à juste titre un dossier de Télérama qui avait été, il y a quelques années, qui avait été remarqué parce qu'il était très seul de son espèce. Depuis, il y en a eu quelques autres. Alors, vous pointez plusieurs choses. Effectivement, je pense que les lois de décentralisation ont créé une compétition, ont déchaîné la compétition entre les élus locaux. Et en gros, les maires des communes centres ont été littéralement déshabillés en termes d'activité, de commerce, mais aussi d'habitants, par les maires des communes rurales, périphériques ou des communes de banlieue, qui, eux, ont aspiré les taxes professionnelles et les impôts locaux avec, bien sûr, la contribution du BTP. Et donc là, cette compétition très malsaine à l'échelle de toutes les agglomérations de la France, elle débouche sur cette France moche, elle débouche sur cette super marchéisation de la France, si on peut dire, c'est pas très beau, mais cette question d'ailleurs n'est pas seulement esthétique, elle est aussi sociale, parce que quand vous aviez des millions de commerçants qui étaient finalement des indépendants, ils animaient les centres, ils créaient des paysages urbains, c'était assez favorable au tourisme a priori, et c'était des unités économiques qui fonctionnaient pour beaucoup dans la concurrence, mais relativement bien. Et cette catégorie de la population, elle a été transformée en salariés à bas coût. On sait très bien qu'un des gros problèmes, notamment des supermarchés, c'est qu'ils emploient à outrance des femmes très peu qualifiées et souvent à mi-temps, à tiers ou à deux tiers temps. Or, et en plus, on leur annonce bientôt qu'elles vont être sorties du jeu puisque les caisses automatiques, alors même que la grande distribution n'est pas en compétition internationale, vont les remplacer. Donc, on voit que c'est un phénomène, bien sûr, esthétiquement très problématique, mais qui aussi joue socialement de manière, à mon avis, problématique.
Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de tout ça, Denis Olivier?
Si, mais moi, mon sujet, c'est d'essayer de montrer clairement que nous n'explicitons pas nos choix, que nous ne sommes pas transparents. Au fond, il y a un déficit démocratique. Et je vais prendre trois exemples, dont celui du petit commerce. Oui, en effet, on a mis en place des règles, notamment les lois Royer, celles qui lui ont succédé, qui protègent le petit commerce par rapport aux grandes surfaces. Pourquoi pas? Mais quand on regarde le bilan emploi de ces opérations, ils sont finalement négatifs. C'est-à-dire que quand on fait des comparaisons entre la France et d'autres pays sur la part du commerce du détail dans l'emploi, on voit que si on avait plus de grandes surfaces, on aurait plus d'emplois et qu'on aurait contribué à réduire notre chômage. On pourrait très bien avoir une autre façon de faire qui consisterait à dire on sort de ces règles contraignantes, mais on alloue de la ressource publique à la défense du centre-ville ou au soutien du petit commerce. Au moins, c'est explicite. Je vous donne un deuxième exemple qui me frappe. Quand on regarde les écarts de performance entre notre système scolaire ou notre système hospitalier et le système allemand, on voit que le système allemand est plus économe que nous, et pour l'hôpital et pour l'école, avec des résultats qui sont égaux ou supérieurs aux nôtres. Quelle est l'énorme différence? C'est que nous avons beaucoup plus d'écoles ou beaucoup plus d'hôpitaux au nombre d'habitants que les Allemands. Nous, on dit, il faut qu'on défende nos petites villes, il faut qu'on maintienne la vie. On pourrait faire un choix très différent qui consistera à dire, on va faire des économies par une optimisation, une rationalisation de nos implantations scolaires ou hospitalières, et avec cet argent, une partie des économies que nous allons faire, nous allons les allouer à l'aménagement du territoire, au transport scolaire. Donc on fait autre choix implicite qui est exactement de la même nature. Quand vous disiez tout à l'heure, on paye mal nos professeurs, on paye mal nos instituteurs. Nos dépenses sociales ont une telle dynamique qu'elles écrasent. On peut pas consacrer 100% de notre richesse aux dépenses publiques. plus on dépense sur le plan social et plus on est obligé de comprimer nos dépenses non sociales, nos dépenses régaliennes. Et donc, en effet, on comprime les dépenses de police, on comprime les dépenses de justice. Et ainsi, sur les ronds-points, les gilets jaunes peuvent se plaindre de payer toujours plus d'impôts pour avoir des services de moins en moins performants. Mon sujet est celui-là. On fait des choix aveugles qui... On pourrait très bien avoir des choix différents, simplement, il mériterait d'être transparent. Et pour finir, je dirais la chose suivante, on a un modèle étatiste, centralisateur et catégoriel. Notre modèle, il est centralisateur, catégoriel et étatiste. Là où ailleurs, c'est les partenaires sociaux qui définissent la loi, chez nous, c'est l'État. Là où ailleurs, on fabrique un État-providence universel, uniforme, chez nous, il est corporatiste. Et là où on laisse la respiration des collectivités locales, chez nous, c'est l'État central qui décide de tout. Et voilà pourquoi nous sommes sans doute malheureux.
Oui, enfin, quand on laisse respirer les collectivités locales, les maires, comme le montre bien Pierre Vermeren, font construire des ronds-points, des zones commerciales, des hangars métalliques, etc. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'aménagement du territoire promu et entrepris par l'État, que la laideur s'accroît aujourd'hui en France, Denis Oliven.
Mais peut-être la tâche de l'État, c'est moins de faire tout que de définir des normes, des règles, des valeurs à respecter et de surveiller qu'elles le soient. Peut-être qu'il serait plus utile que l'État fasse ça plutôt que de tout faire. Peut-être qu'il serait plus intelligent pour lui d'être un stratège et un évaluateur qu'un acteur, parce qu'on voit bien que comme acteur, il est empêtré comme Gulliver.
Mais alors, une question que je vous pose à tous les deux. Pourquoi assiste-t-on en France à une telle augmentation des dépenses sociales? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça a un lien avec une immigration immaîtrisable?
Non.
Denis Oliven.
La dynamique principale, les deux raisons qui expliquent la dynamique de nos dépenses sociales, la première des raisons, c'est notre retraite. Notre système de retraite représente 14% de notre PIB. L'Allemagne, dont la population est pourtant plus âgée, le système des retraites ne représente que 10% du PIB. Et pourquoi est-ce que nous avons des retraites plus coûteuses que partout ailleurs? D'une part, parce que nous travaillons moins que les autres, donc nos durées de cotisation sont plus courtes et nos durées de pension plus longues. Et d'autre part, parce que nous avons un revenu des retraités qui est plutôt plus favorable par rapport au revenu moyen que les autres pays. Et puis, on a par ailleurs, au-delà de ce mécanisme des retraites, on a une mécanique sociale non maîtrisée, précisément parce que nous ne nous interrogeons pas sur son modèle. Et que depuis une vingtaine d'années, on a essayé de compenser chaque fois que nous l'avons voulu, chaque fois que nous avons ouvert la voie à des libéralisations pour adapter notre économie, on a compensé par de nouvelles dépenses sociales pour s'excuser ou pour compenser sur les ménages les plus faibles et éviter le creusement des inégalités. C'est ça la dynamique de nos dépenses sociales, c'est pas l'immigration.
Pierre Vermeren.
Moi, je pense que les élites françaises ont un problème avec le peuple français depuis la fin du 19e siècle, parce que ce peuple... Il ne fait pas d'enfants. Il en a fait assez pour qu'on en envoie presque 2 millions mourir lors des guerres du XXe siècle, 2 millions de jeunes garçons, ce qui a aggravé évidemment la situation de l'absence d'hommes. Et on peut même ajouter les 6 ou 700 000 jeunes gens qui ont été tués par l'automobile depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus que la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un problème qui se traduit naturellement par l'ouverture des frontières et le besoin d'immigration depuis la fin du 19e siècle. Alors ça, c'est une histoire maintenant ancienne qui a un siècle. Il s'ajoute quelque chose de nouveau depuis la fin du 20e siècle, c'est que l'abandon de l'économie productive dans de très grandes proportions n'a pas du tout débouché sur l'abandon de l'investissement, au contraire. Puisqu'on a investi d'une manière incroyablement importante, puisque on a même, en temps de paix, accumulé une dette de 2 300 ou 2 400 milliards d'euros. Cette dette, elle a servi très largement de la part des grandes entreprises comme la SNCF ou de la part des collectivités locales à faire de l'investissement dans le logement, dans les infrastructures, etc., etc. Et donc, notre modèle économique, c'est de devenu celui, c'est devenu la croissance extensive que je dis à la soviétique, parce que c'est exactement le même problème. Au lieu d'investir dans l'industrie et dans les technologies pour avoir de la valeur ajoutée par le progrès technologique, nous on investit dans les masses, on investit dans les ronds-points, dans les autoroutes, dans les TGV, dans les équipements de toutes sortes. Et finalement, l'immigration, elle permet de développer le commerce, elle permet de développer le logement, elle permet de développer les services sociaux, la santé, l'école, vous multipliez les équipements, l'ameublement, et donc on a... l'immigration, si vous voulez, c'est un objet là-dedans, mais elle est devenue utile à un modèle de croissance extensive qui n'apporte pas beaucoup d'enrichissement, beaucoup de dettes, parce que c'est pas de la technologie, il n'y a pas de progrès technologique. Et là, vraiment, on a un problème, parce que cette structure, elle est devenue vitale. Et si on a l'impression que nos dirigeants, s'ils arrêtent le vélo, il va tomber, donc on continue comme si de rien n'était.
On continue et se pose quand même en France un problème que vous abordez de manière un peu marginale dans votre livre, Denis Oliven, un problème civilisationnel. On est en pleine discussion dans ce pays à cran sur la question du voile islamique ces jours-ci. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit « Le voile n'est pas souhaitable en soi dans notre société ». 71% des personnes interrogées sont d'accord avec lui, ce qui fait que la corporation médiatique s'arrache les cheveux. Pour elle, le voile, l'acceptation du voile islamique, de sa visibilité, c'est une preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. Pour une majorité du peuple, c'est une sorte d'atteinte au droit à la continuité historique. Les Français ne se sentent plus chez eux quand le hijab ou l'abaya se multiplient dans nos rues. Donc il y a là un véritable problème et le malaise français tient aussi à cela aujourd'hui, c'est-à-dire sommes-nous une civilisation? Si nous le sommes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit du rapport entre les hommes et les femmes dans notre pays? Est-ce que nous pouvons accepter que des femmes soient amenées à cacher leur chevelure, parce que celle-ci serait un symbole de la luxure, et donc que les femmes soient considérées en quelque sorte comme des objets d'une dangereuse tentation, ou non? Alors tout cela, à mon avis, affecte aussi l'humeur des Français. Denis Oliven.
Il paraît assez évident, je le dis, moi je ne le traite pas ou marginalement parce que je ne me sens pas compétent, mais il est clair que notre malheur est lié à une dimension matérielle et une dimension spirituelle. La dimension matérielle, je l'ai dit, à mon sens, c'est que nous avons adopté un modèle de redistribution économique et sociale qui divise le pays. Et la question spirituelle, c'est que l'accomplissement de la société des individus, le développement du libéralisme culturel, qui n'est pas vrai seulement dans notre pays, affecte le contrat civique qui nous réunissait, notre histoire notamment nationale et notamment dans sa dimension républicaine, qui organisait un intérêt général qui dépassait de beaucoup les intérêts particuliers et créait une dimension collective forte, peut-être plus forte que dans d'autres pays. Mais je crois cependant que, certes, il faudrait qu'on repense notre modèle de redistribution et qu'on réenchante notre modèle républicain. Mais ce modèle républicain prévoit tout de même, depuis la déclaration de 1789, il est quand même fondé sur la liberté. Et donc la liberté d'opinion, la liberté religieuse. Et donc il est aussi fondé sur le fait, et ce depuis longtemps, que nous ne pouvons apporter aux libertés que des bornes limitées. Il faut que nous soyons parcimonieux dans les bornes que nous apportons à la liberté. C'est ça le sujet qui me semble-t-il, est aujourd'hui aigu. Alors, peut-être, c'est mon hypothèse, peut-être que si nous avions un modèle de redistribution économique et sociale plus unifiant, plus unitaire, cette question de l'assimilation, disons, des populations étrangères, se poserait de manière moins aiguë. Il serait peut-être plus facile de la régler, parce qu'on serait moins malheureux globalement.
Pierre Vermeeren.
Alors, le problème, il est à la fois politique, territorial, social, culturel. territorial parce qu'il y a effectivement des phénomènes de concentration des populations à la fois du point de vue social, du point de vue ethnique, religieux, dans des quartiers. Et du coup, dans certains quartiers, si les musulmans sont très majoritaires, il va y avoir de la part des plus extrémistes, et notamment des frères musulmans, des pressions pour que l'ensemble des files se voilent. Et je pense que c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, au fond, depuis qu'on est petit, moi j'habitais en Lorraine, il y avait des travailleurs algériens, il y avait des travailleurs marocains, il y avait des femmes âgées qui étaient voilées. Au fond, on le savait, ça ne gênait personne. Le problème, c'est quand sur un territoire, toutes les femmes sont voilées et qu'il y a des interdictions manifestes qui sont faites. On a parlé des cafés récemment. Dans certaines régions communes, assez nombreuses d'ailleurs de la région parisienne, certains types de commerces. Donc, il faut bien distinguer le phénomène culturel et religieux et le phénomène politique. Et c'est ça tout notre problème. C'est que le problème politique, il va évidemment se nicher à l'intérieur du phénomène culturel et il se targue de la liberté culturelle, alors que derrière, évidemment, d'autres ressorts, d'autres puissances, d'autres militants politiques sont à la manœuvre. C'est très difficile dans une démocratie libérale de régler ce problème, mais disons que peut-être le mettre sur la table, c'est le début de la réflexion et de solutions éventuelles.
Bon, ben, très bien. Alors, nous contribuons à chercher des solutions dans la mesure où nous le mettons sur la table. Mais je ne voudrais pas m'y arrêter. Vous avez parlé, Denis Oliven, des trois Frances. Une de ces Frances, la France des classes moyennes, qui ne bénéficie ni de la mondialisation ni des dépenses sociales, s'est manifestée avec le mouvement des Gilets jaunes que vous traitez dans votre livre Pierre Vermeren. Les Gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle, dites-vous. Ce mouvement nous a occupé pendant des semaines et des semaines. On a parlé de l'acte 1, 2, 3, on a même parlé de l'acte 44. Quelle pièce étrange qu'une pièce en 44 actes. Mais justement, il est difficile aujourd'hui d'en tirer un bilan parce qu'on a le sentiment que ce mouvement, qui était un sursaut de dignité d'une France invisible et méprisée, a mal tourné. Et très vite, avec les violences, notamment le 1er décembre de 2018, à l'Arc de Triomphe, des manifestations, des agressions contre les policiers, etc. Et comment expliquer cette évolution du mouvement? Est-ce qu'on s'est fait des illusions? Est-ce que cette France oubliée, qui manifestait sa dignité, eh bien, d'une certaine manière, est-ce qu'elle s'est montrée décevante?
Là encore, c'est un peu comme
Pierre Vermeren.
C'est un peu comme l'histoire du voile, c'est-à-dire qu'on voudrait de la pureté, et en fait, les événements politiques agrègent. Il n'y a pas de révolution pure. Il n'y a toujours que des agrégations de phénomènes. Les Gilets jaunes, effectivement, c'était le cri de désespoir de toute une partie de la France, notamment le bas de la classe moyenne et le haut des classes populaires, qui tout simplement ne peuvent pas vivre de leur travail. Voilà. Donc la question est très simple à poser. Hein. On ne peut pas vivre de son travail. Donc soit il faut faire du travail au noir, soit il faut recourir aux allocations. Donc il y a un problème de dignité, etc. À partir de cette protestation très vive, très générale, et très étendue sur le territoire, se sont agrégés donc des différents groupements politiques. Donc au moment de l'Arc de Triomphe, on savait qu'il y avait des jeunes délinquants de banlieue qui étaient venus. Ensuite, on a eu des mouvements politiques d'extrême droite qui ont battu le pavé. On a eu, moi j'ai vu à Bordeaux, pour beaucoup, c'est presque toutes les organisations de gauche ou d'extrême gauche qui ont récupéré. Hein. C'est pas partout, c'est pas du tout passé partout la même chose. Dans de très nombreuses villes de province, notamment les régions les plus abandonnées comme la Picardie, Champagne-Ardenne, on a eu des manifestations très massives tous les samedis, souvent beaucoup plus grosses à Paris, sans casse, on n'en a jamais parlé. Donc il y a aussi un problème de focalisation sur les incidents. Et puis il y a eu des militants comme ceux qui vous ont agressé en plein Paris, qui manifestement étaient des militants politiques déterminés et qui ont agi par opportunisme, mais qui ne me paraissent pas représenter du tout l'ensemble du mouvement et de sa légitimité en termes de revendications sociales.
Denis Oliven.
Les Gilets jaunes, c'est le mai 68 de couches sociales silencieuses qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, qui ne sont pas représentés par des syndicats, qui ne sont pas habitués au travail revendicatif et qui autrefois auraient dû être représentés politiquement par la droite, mais qui ne l'étaient plus. Donc si la violence de la classe ouvrière est collective et organisée par des partis, par des syndicats, la violence de ces couches moyennes, elle est individuelle. La violence qui résulte de la du désespoir, elle est individuelle. Et donc, il s'est passé ce qui se passe quand un mouvement n'a pas de débouché ou ne ressent pas le débouché, il se radicalise. La majorité d'entre eux a regagné ses foyers et sont restés les plus irréductibles d'entre eux. Selon une expression célèbre, le peuple s'est retiré, la foule est restée, et c'est les violences de la foule à laquelle on a assisté à la mesure d'un désespoir dont ils sentaient d'une espérance dont ils sentaient qu'elle ne pourrait pas être satisfaite.
Oui, mais moi je ne voudrais pas accorder trop d'importance à ma mésaventure. Vous avez tout à fait raison, ces insulteurs ne sont pas représentatifs. Mais il y a eu des leaders représentatif, même si ce mouvement ne voulait pas de représentants. Et il y en a un dont l'existence et les propos m'ont beaucoup frappé. Maxime Nicole, Fly Rider. C'était Fly Rider. Je retiens simplement cette expression, Fly Rider. Ça veut dire qu'il existe face à la mondialisation des élites, les anywhere, dont parle David Goddard, ceux qui habitent partout, une mondialisation par la culture de masse, une autre mondialisation et une forme de déculturation. C'est-à-dire que un certain nombre de Français qu'on n'ose plus appeler de souche ont quitté la banlieue pour la France périphérique, comme le montre Christophe Guilluy, précisément parce qu'ils n'étaient plus le référent culturel qu'ils avaient l'habitude d'être pour les nouveaux arrivants. Mais ce référent culturel potentiel, on se rend compte, avec la crise de l'école notamment, que c'est aussi un référent déculturé. Donc c'est ça qu'il y a de pathétique dans ce mouvement. C'est l'aveu, si vous voulez, d'une déculturation massive d'une France qui a été abandonnée, mais sur tous les plans. Ouais. Pierre Vermeuren.
Je crois que la défaite de la pensée, c'était il y a 32 ans. Je crois que les phénomènes culturels, ils infusent, ils descendent petit à petit dans la société. C'est vrai que moi qui ai vécu en province dans les années 70, dans des régions qui sont aujourd'hui très déshéritées, il y avait une société qui se tenait. Et je reviens à la question de l'industrie. L'industrie, c'était un milieu producteur de richesses. C'était un milieu qui était producteur d'une structuration sociale, parce qu'il y avait des ingénieurs, des contremaîtres, des ouvriers, etc. Il y avait donc des phénomènes de notabilisation sur l'ensemble du territoire. Et on a assisté depuis à un regroupement des élites dans les métropoles. Très massif et très manifeste partout. Ce qui fait qu'effectivement, les classes populaires, dans leur grand ensemble, et j'y incorpore une grande partie des classes moyennes que vous présentez dans votre livre, soit plus de la moitié de la population, habite sur 80% du territoire. Or, ce territoire, il est peu producteur de richesses. Vous savez que les 12 métropoles produisent la moitié du PIB sur 5% ou 10% du territoire. C'est dire que l'essentiel du territoire vit sous perfusion. Dans des régions entières qui sont sorties de l'économie productive, c'est un énorme problème. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi la fuite des élites. Ça, c'est pas un phénomène ridicule. Ça concerne les ingénieurs, les cadres, ça concerne les églises, ça concerne les classes moyennes pour beaucoup. Et je dirais moi, la France des gilets jaunes, c'est la France où les profs ne mettent pas leurs enfants et où les médecins ne veulent pas se faire soigner non plus. Tous ces hôpitaux périphériques. Quand vous parlez à des médecins des grands CHU, ils vous disent tout sauf ça. Donc il y a vraiment un problème qui n'est pas culturel seulement, mais qui est un problème d'abandon de toute une partie du territoire. On a abandonné la data, on a abandonné l'aménagement du territoire, et on s'est dit, chacun, puisque maintenant il y a la décentralisation, chacun va se débrouiller. Or, un maire local, il ne faut pas trop les accabler, ils n'ont strictement aucun moyen de peser sur les rééquilibrages territoriaux et sociaux.
Denis Oliven.
De la même façon que le prolétariat n'était pas aussi merveilleux que les communistes l'imaginaient, les classes moyennes ne sont pas aussi merveilleuses. Les petits blancs, entre guillemets, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on regarde la sociologie de ces classes moyennes centrales, telles qu'elles résultent des travaux de l'INSEE, on voit que ce sont vraiment des petits blancs. N'est pas aussi merveilleuse que les contempteurs du libéralisme l'espéraient. Oui, en effet, ils sont désespérés, ils ont un niveau d'éducation faible, ils sont nourris de télévision, enfin bref. Mais ça ne rend pas le caractère légitime de leurs revendications sociales. Ça ne vide pas de sa légitimité leurs revendications sociales. Le fait que leurs représentants soient peu reluisants ou que certains que le mouvement se soit est finalement dégénéré ne vide pas de son sens la rébellion qui était la leur et qui est fondée en raison quand on voit le sort qui est réservé à ces couches moyennes.
Mais il ne s'agit pas de les accabler, Denis Oliven. Il s'agit peut-être, devant justement cette déculturation massive, d'accabler ou de critiquer la dérive de notre système scolaire et la dérive aussi de la télévision. Après tout, la télévision, c'était autre chose, l'école, c'était autre chose, et nous payons un prix très lourd pour l'abandon dans lequel nous les avons laissés l'une et l'autre.
C'est un sujet dont nous n'avons pas parlé, mais qui est essentiel. Essentiel. En France, il faut en moyenne 6 générations pour passer des couches les plus pauvres aux classes moyennes, c'est-à-dire 150 ans. Et donc l'ascenseur social n'existe pas.
Supposer qu'on y passe.
C'est essentiellement lié au dysfonctionnement ou à l'échec de l'école, dont on a vu depuis une vingtaine d'années qu'elle n'a cessé de se détériorer, ce qui produit deux effets. Le premier, un effet d'affaiblissement de notre niveau scolaire. Mais le deuxième, c'est que nous avons désormais l'un des systèmes qui, du point de vue social, est l'un des plus injustes des grands pays, celui qui reproduit le plus les inégalités sociales. Et donc, désormais, dans notre pays, contrairement aux espérances du modèle républicain, on est assigné à résidence dans sa classe sociale, faute que l'école vous permette d'en sortir, parce que c'est le principal instrument de la promotion sociale. Et c'est ça que ce que vous décrivez traduit.
Oh, Pierre Vermeulen, pour finir.
Je suis tout à fait d'accord et bien placé pour le savoir en tant que professeur. Mais je voulais dire juste le terrible mot de petit blanc que vous avez repris et qui est bien sûr couramment employé et qui décrivait les petits blancs dans les sociétés coloniales. On en est là. C'est quand même, il faut se rendre compte du transfert de ce modèle et les signifiés qu'il a. C'est assez redoutable et assez triste.
Assez triste, oui. En effet, le constat n'est pas très gai. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le temps nous manque. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre Vermeulen, La France qui déclasse. Il est publié aux éditions Talendier. Denis Oliven, Le délicieux malheur français. Il est publié chez Albin Michel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre De Gaulle revisité. Mes invités seront Michel Vinocq et Serge Bernstein. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut. Avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac, à la technique aujourd'hui, Émilie Couette, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannenet.